Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine avec l'école autour du monde et les manifestations en Argentine contre la privatisation de l'université. Et puis ensuite, nous partirons à la découverte de l'école à ciel ouvert. Comment apprendre dans la nature, avec la nature? La question peut sembler incongrue car d'ici 2050, près de 7 personnes sur 10 dans le monde vivront justement en milieu urbain. Les villes s'étendent et éloignent toujours plus les enfants de l'extérieur. Pourtant, certains pays comme le Danemark, la Norvège pratiquent depuis les années 1990 l'école en plein air et malgré le froid d'ailleurs. Quand la classe se fait dehors, en forêt ou pourquoi pas sur une parcelle de verdure tout simplement, quel résultat sur les élèves? Comment faire des maths, de la géométrie, du langage avec son cahier allongé dans l'herbe? Nous allons en discuter avec une des meilleures spécialistes du sujet. Bonjour Sarah Vauquier.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver, vous êtes suisse, vous êtes enseignante en primaire, vous êtes pédagogue par la nature et psychologue. Vous formez surtout maintenant des enseignants à vos techniques d'animation de classe à l'extérieur. Votre dernier livre s'intitule « Future Skills ». Cultiver en plein air les compétences d'avenir. Il ne s'agit pas de jardinage, hein. On va bien expliquer ce qu'on fait. Pendant la pandémie, je voudrais le rappeler à nos auditeurs, ceux qui nous écoutaient pendant le Covid, quand toutes les écoles du monde étaient fermées, surtout celles du continent africain, eh bien, vous étiez l'une des enseignantes de l'école à la radio sur RFI, que j'avais le plaisir d'animer. Et on a découvert grâce à vous que les enfants peuvent apprendre partout et tout le temps. On peut dire ça comme ça, Sarah?
On peut dire ça comme ça, exactement.
Oh, j'adore votre accent suisse.
Merci.
Laure Pilot est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante à l'université d'Angers et vous êtes formatrice d'enseignants aussi. Vous avez créé la formation en ligne Enseigner dehors dans le secondaire pour le réseau Canopée qui est accessible sur Internet. Mais bien sûr, on va en rediscuter. Vous êtes en liaison avec des enseignants du monde francophone justement pour faire avancer cette question de l'enseignement à l'extérieur. Nous serons aussi en ligne avec un instituteur au Bénin, Elias Givi, qui enseigne dans une école publique d'Avrancou. C'est une commune rurale dans le département de Wémé, dans le sud-est du Bénin, tout près de la frontière du Nigeria.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
L'école autour du monde, c'est cette semaine en Argentine où les universités publiques sont actuellement asphyxiées par les coupes budgétaires imposées par le président ultralibéral Javier Milei. Des coupes si drastiques que certains établissements pourraient même être forcés de fermer leurs portes d'ici le mois de juin. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre correspondant à Buenos Aires. On vous entend depuis hier dans les éditions de RFI parce que l'Argentine vit une mobilisation massive à travers tout le pays et bien sûr à Buenos Aires.
Oui, le centre de la capitale argentine a été totalement paralysé hier. Les 2 kilomètres qui séparent le Parlement de la place de Mai étaient noirs de monde. On parle de plusieurs centaines de milliers de personnes à Buenos Aires et de presque 1 million dans tout le pays. Une mobilisation massive donc, mais surtout hétérogène. Hier, j'ai croisé des gens de toutes les générations, de 7 à 77 ans, de toutes les classes sociales et de presque tous les bords politiques. C'est quelque chose qui démontre l'attachement et la fierté profonde des Argentins à l'égard de ce système universitaire totalement gratuit qui est aujourd'hui en danger. Donc.
Un système universitaire en danger en raison du choc d'austérité qui a été décrété donc, par le président Javier Milei depuis son élection, Théo.
Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement n'a pas actualisé le budget des universités publiques alors que l'inflation sur les 12 derniers mois dépasse les 288%. C'est ce que m'a expliqué hier Claudia Lopez, qui est enseignante en sciences sociales à l'Université de Buenos Aires.
No actualizaron el presupuesto y la universidad pública se está manejando con un presupuesto.
Ils n'ont pas actualisé les budgets. Aujourd'hui, les universités publiques fonctionnent avec le même budget qu'en 2023, en dépit d'une inflation impressionnante. Si rien ne change, à partir du mois de mai, on ne sait pas si l'université pourra continuer à ouvrir ses portes, ce qui signifierait que les étudiants perdraient leur année et les enseignants leur emploi.
pour alerter sur ce risque de fermeture de l'université, des étudiants de l'université ont mis au point un compte à rebours en ligne qui indique combien de temps il reste avant que le budget de l'année 2024 ne soit épuisé. Là, je l'ai sous les yeux alors que je vous parle et je peux vous dire qu'il reste exactement 36 jours, 16 heures, 44 minutes et 11 secondes.
Et les universités, en fait, sont déjà impactées dans leur fonctionnement au quotidien aujourd'hui. Comment ça se traduit ?
Eh bien, hier, par exemple, j'ai croisé une étudiante en gestion de l'environnement urbain qui m'expliquait que depuis un mois, elle n'a plus que la moitié de ses cours en présentiel et que l'autre moitié se fait de manière virtuelle pour faire des économies. L'université de Quilmes, en banlieue de la capitale, elle a commencé à rogner sur les frais de ménage. Puis dans le cas de l'université de Buenos Aires, la direction a tout simplement décidé de couper l'électricité dans les couloirs et de réserver les ascenseurs aux seules personnes handicapées.
Et quelle est la réponse aujourd'hui du gouvernement face à cette situation et à cette mobilisation massive, Théo ?
Eh bien, sa réponse, Javier Milei l'a donnée lundi soir quand il a annoncé un audit de toutes les universités publiques du pays. Le président libertarien n'a jamais caché son mépris pour l'éducation publique dans son ensemble, depuis la primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et il a d'ailleurs annoncé il y a quelques semaines qu'il allait présenter un projet de loi destiné à pénaliser l'endoctrinement qui, selon lui, a lieu dans les salles de classe des établissements publics.
Les universités menacées de fermeture et les étudiants d'une année blanche. Je rappelle qu'on est dans un pays qui est la troisième économie d'Amérique latine après le Brésil et le Mexique. Merci beaucoup Théo Conscience en direct de Buenos Aires. À suivre dans quelques instants, l'école ouverte, mais là il s'agit à ciel ouvert, l'école à ciel ouvert, mais là il s'agit d'un vrai programme pédagogique.
Bonjour Emmanuel.
Ah salut RFI, j'espère que vous allez bien.
8 milliards de voisins.
Oui, allô ?
33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Pour se parler.
C'est une émission pour tous les voisins et toutes les voisines.
8 milliards de voisins, voisines. Construisons la vie ensemble.
Sarah Vauquier et Laure Pilot, j'aimerais déjà que vous expliquiez à nos auditeurs qu'est-ce que signifie l'école à ciel ouvert. Sarah Vauquier, l'école dehors. C'est quoi ? C'est pas juste une sortie juste avant les vacances pour aérer les enfants, c'est pas ça ?
Non, c'est pas ça. Et déjà, il faut dire qu'il n'y a pas de copyright sur la définition, mais si on navigue un peu à travers des pays, on trouve des choses similaires. Pas dans tous les pays, ça veut dire en nature ou à ciel ouvert, ça peut aussi être juste en dehors de la salle de classe. Donc l'école dans la vie, on va visiter une usine, on va aller à la rencontre du quartier ou on va dans la forêt, ce qui se pratique beaucoup en France. Et là, on enseigne, on apprend tout. On peut faire des mathématiques, on peut faire de la géographie, on peut faire de l'anglais. Donc souvent, le programme, il est transversal, il touche à différentes matières. Et puis, il touche aussi à des compétences sociales et individuelles qu'on aimerait développer. Un autre aspect qui est important, c'est que cette pratique devrait se faire de manière régulière. Alors, comme vous avez dit, ce n'est pas la sortie de la fin d'année où on fait un peu vacances et la fête. C'est vraiment, on apprend dans un autre environnement d'apprentissage, souvent d'une autre manière. Les élèves, ils sont plus actifs, ils apprennent plus par leur sens et aussi par des situations, problèmes concrets et authentiques qu'on trouve sur place.
Ça veut dire, Laure Pilot, que quand on fait l'école dehors, que ce soit dans le quartier, dans la ville, dans un endroit où il y a un espace, si possible, quand même agréable, ou dans un jardin, ça veut dire que les élèves emportent leur matériel de travail, leur cartes, leurs cahiers, leurs crayons ?
Oui, tout dépend. On peut avoir plusieurs modalités, donc soit vraiment transférer la classe à l'extérieur ou bien adapter et prendre un matériel un peu différent, décréer une ardoise, tout dépend de ce qu'on cherche à leur faire faire.
Est-ce que l'école est dehors et là pour répondre à un problème, en fait, au départ ?
Déjà, on peut noter qu'il y avait un certain retard de la France par rapport à d'autres pays. Hein. Vous avez mentionné les pays du Nord au début de l'émission. On peut dire aujourd'hui que depuis le premier déconfinement, il y a vraiment un mouvement qui s'est amorcé, qui est notamment fédéré par une association qui s'appelle la Fabrique des communs pédagogiques, qui s'est vraiment saisie du sujet autour de l'enjeu de santé publique que représente la classe dehors, c'est-à-dire donner accès au dehors, à des enfants qui sont de plus en plus enfermés et qui développent diverses pathologies dans leur corps ou dans leur esprit à cause de cela.
Des enfants qui vivent de plus en plus à l'intérieur, ça c'est commun à pratiquement tous les pays du monde.
Oui, effectivement. Et c'est pour ça que, à ce titre, donc à nouveau, la Fabrique des communs pédagogique s'adresse aux enseignants de toute la francophonie, notamment dans le cadre d'un événement qui s'appelle la semaine francophone de la classe dehors, qui aura lieu du 20 au 27 mai et qui vise à fédérer les initiatives, à inciter les enseignants à sortir les élèves pour que un maximum d'enfants aient accès au dehors et pas seulement ceux dont les parents ont conscience de l'importance de l'extérieur pour eux. Donc c'est vraiment ce travail-là.
Alors, on va essayer de voir comment concrètement ça se passe, hein, avec un enseignant qui va nous rejoindre, qui est au Bénin. Et puis surtout, quels résultats, hein, sur les apprentissages des enfants, des élèves, sur le travail aussi des enseignants. Vous restez avec nous toutes les deux. On se retrouve juste après cette sélection de la playlist RFI. Kifno chez 8 milliards.
Tu te mets dans quoi, pays Kessia, tu veux pas de moi, pourquoi tu me fais ailleurs?
On them. Sado Chris Beat.
Ah, yeah, yeah.
T'as donné un bon travail, non? T'as pas les assinis, non? Tu m'as dit faire coco. T'es dans quel giga? T'as demandé un champagne, non? T'as pas les assinis, non? Tu m'as dit faire coco. C'est quoi ton moment? Je vais même pas tourner autour du pot. Si tu moi, je vais pas taper poteau. Je claque, je tiens la foule. Le tien que j'ai, c'est toi qui bouffe. Bébé, dis-moi à quoi tu joues. Je veux béco, tu donnes ta joue.
Tu te mets dans quoi? Y'a ramené ton petit colis. Dans mon cola, y'a petit cola. Faut me donner pardon, y'a parti. Tout le monde t'a poquiné Nisa, poquiné Nisa. À mon tour, tu veux parler en visa. Si on est là, c'est pour s'enjailler. Si t'as fait quelque chose, faut pas.
J'ai répondu oui, tu vois pas mes messages ou bien tu me fais vu pour rien. Si tu fais, je vais t'en voûter. T'as parlé de champagne, partir en campagne, aller au cinéma. On a coordonné un moment, mais tu veux me faire parler.
Mais c'est dans quel moment, la vie c'est mollo. Faut parler à des moments, oh y'a pète en ma gueule.
Et de faire c'est ma poudre.
Kiff nos bits chez 8 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI et nous parlons éducation comme chaque semaine avec cette façon qui peut sembler singulière d'enseigner et de faire la classe dehors, dehors dans la ville, dans le quartier, dans le square, dans le jardin, ça peut même être visiter une usine, vous nous le disiez, Sarah Vauquier, vous êtes une spécialiste de cette question de comment former les enseignants pour enseigner à l'extérieur de l'école, hein, et on en discute aussi avec vous, Laure Pilot, vous nous disiez que l'enjeu est important puisqu'il y a même un enjeu de santé publique aujourd'hui. Les enfants ne sortent plus, vivent peu à l'extérieur. C'est vrai qu'ils sont aussi beaucoup devant les écrans. Et donc, ils manipulent moins, ils touchent moins, ils marchent moins. Et pourtant, on peut faire tout ça en apprenant énormément de choses. Et d'ailleurs, on va le vérifier avec un instituteur au Bénin. Nous sommes en ligne avec Elias Givi. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu, on est ravis de vous accueillir dans l'émission, Elias, parce que vous enseignez dans une école publique d'Avrancoux, qui est une commune rurale dans le département de Wémé, dans le sud-est du Bénin, pas très loin de la frontière avec le Nigeria. D'abord, il faut dire à nos auditeurs, Elias, que vous avez une classe de 35 élèves en CM2, c'est bien ça?
Oui, en effet.
Donc, ce n'est pas une petite classe. Hein. Certes, vous avez des collègues qui ont beaucoup plus d'élèves encore sur le continent africain, mais c'est déjà beaucoup. Et vous les emmenez pour des sorties depuis près de 2 ans, avec l'accord, bien sûr, de la directrice de l'école. J'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que vous faites exactement quand vous sortez avec les élèves et comment la classe continue à l'extérieur de l'école.
Merci beaucoup à toi, Emmanuel. Et comme tu l'as dit, la classe dehors elle a beaucoup d'avantages. Et pour notre première sortie, nous sommes allés visiter les locaux d'une ONG qui fait de la réparation collaborative. Et nous avons diverses activités, notamment des activités liées beaucoup plus à la nature, puisque dans mon école, il y a le programme que le gouvernement du Bénin développe, qu'on appelle Programme national d'alimentation scolaire intégrée. Et donc, dans ce cadre, nous avons un potager. Donc, tout ce que nous étudions théoriquement en classe qui a un lien avec les processus végétaux comme la germination, la floraison, la fanaison et la pollinisation, par exemple. Nous sortons, nous allons dans notre potager pour pouvoir vivre ceci de façon concrète. Nous avons également...
Avec vraiment un aspect scientifique. Hein, quand vous parlez de pollinisation, c'est quelque chose, c'est pas juste cultiver des légumes pour alimenter la cantine à l'heure du déjeuner. Hein.
Du tout pas. Puisque nous suivons les légumes, depuis qu'on a mis en terre les graines, nous voyons le processus au niveau de la pépinière, comment il faut transplanter, comment il faut arroser, ainsi de suite. Nous avons également la gestion intégrée des déchets de cuisine et végétaux ou produits de l'humus. Donc, nous suivons le processus, comment il faut aérer les déchets qui sont mis dans un trou afin de favoriser cette décomposition qui sera profitable aux plantes après. Et le Bénin, nous saluons également l'initiative de notre ministre de l'Enseignement maternel et primaire qui a institué depuis peu les derniers vendredis du mois comme journée de salubrité. Et nous, donc, dans notre école, qu'est-ce que nous faisons? Nous en profitons pour visiter un verger. Et dans ce verger, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons toutes les dispositions sécuritaires qu'il faut afin que les enfants ne se blessent pas, qu'il n'y ait pas d'accident de circulation, et nous mobilisons du matériel. Et là, une fois dans ce verger, qu'est-ce que nous faisons? Nous profitons bien entendu de l'air pur, de la fraîcheur de la nature. Et nous procédons suivant les mois à la prise de la température, un autre mois peut-être la mesure de l'humidité, la variation du vent et de sa vitesse. Donc, avec l'aide d'un garde forestier, il y a 2 mois de cela, nous avons initié la découverte des trésors de la nature, ce qui nous a permis de répertorier des insectes et oiseaux qui vivent à proximité de notre école. Ceci...
Mais quand vous faites tout ça, est-ce que les élèves ont le cahier à la main avec un crayon?
Nous avons une fiche spéciale que nous avions conçue à cet effet. Donc, suivant l'activité que nous avons menée le mois, nous concevons la fiche à cet effet.
Quand vous allez dans un atelier de réparation de téléphone, par exemple, la fiche consiste en quoi, par exemple?
La fiche la constitue à mettre, par exemple, la marque du téléphone. Mais il faut dire que pour cette sortie, nous sommes allés voir les éléments constitutifs d'une lampe torche et comment on peut faire à notre niveau rural fabriquer une lampe torche.
D'accord.
Donc sur cette fiche, il faut mettre en grand titre la fabrication d'une lampe torche. Et là, après ça, nous avons les différents éléments constitutifs de la lampe torche. Et l'enfant, pendant qu'il suit le développement, il pourra noter à chaque étape le développement, ce que lui enseigne le guide au sein de cette ONG-là.
Comment vous faites, Elias Guivi, pour gérer 35 élèves en toute sécurité, comme vous le disiez, lors de ces classes à l'extérieur?
Lors de ces classes à l'extérieur, pour gérer en toute sécurité, qu'est-ce que nous faisons? Il y a une discipline à l'enseignement primaire, ce que nous appelons éducation sociale. Et au cours de cette discipline-là, nous enseignons déjà le code de la route, les consignes de sécurité, la bonne camaraderie et autres. Donc, une fois dehors, Nous responsabilisons les enfants, en plus des écoliers qui sont déjà responsables de classe. Donc, en tout et pour tout, devant le rang, l'enseignant met un responsable.
Ah oui.
Au tiers du rang, l'enseignant lui-même se positionne et derrière, il y a deux autres responsables. Donc, des enfants plus ou moins responsables, des enfants qui ne sont pas taquins, on les responsabilise et ils suivent avec nous. Et vu qu'on a déjà vu le code de la route, nous marchons à gauche tout en ayant le danger en face de nous. Maintenant, il y a le matériel que nous allons utiliser sur le terrain. Donc, s'il y a dans ce matériel-là des objets pointus, des objets tranchants et autres, nous apprenons à découvrir ces objets-là déjà et ce de quoi ces objets-là sont capables et nous prenons notre disposition.
Ce qui fait que la gestion de la sécurité, c'est déjà aussi un apprentissage. Qu'est-ce que vous observez comme résultat par rapport à un cours de maths dans la classe, Elias?
Par rapport à un cours de maths dans la classe, si nous restons dans nos quatre murs et nous enseignons, nous restons beaucoup plus théoriques. Et les enfants captent difficilement. Voyez-vous, le rythme d'assimilation est très lent. Voyez-vous, donc quand nous sortons, par exemple, et que nous sommes dans un verger, et il nous arrive de chercher à mesurer la taille d'un arbuste ou bien la circonférence d'un tronc d'arbre, c'est des éléments que nous voyons théoriquement en classe. Mais une fois sur le terrain, ces enfants-là découvrent la réalité du mètre. C'est quoi le mètre, par exemple? C'est quoi le décamètre pour mesurer la longueur ou la largeur d'un périmètre de culture, par exemple, ou une planche pour planter les légumes? Les enfants utilisent ces différents outils.
C'est ça.
Outils-là.
Pour cultiver des légumes, on fait de la géométrie. Ça me rappelle beaucoup d'exercices que vous proposez, Sarah Vauquier.
Tout à fait, ouais, exactement.
Comment vous avez été amené à faire classe en dehors de l'école? Comment vous avez, comment vous êtes formé aussi, Elias Givi?
Je fouine beaucoup sur le web. Donc, c'est pendant que je cherchais des éléments concrets pour mettre en œuvre la classe promenade qui est recommandée par les curricula à l'enseignement primaire au Bénin, que je suis tombé un jour sur la classe dehors, la notion de la classe dehors. Et là, j'ai commencé par chercher et je me suis abonné sur Twitter à divers comptes d'associations en France qui mettaient en œuvre la classe dehors, la fabrique des communs pédagogiques par exemple et autres. Et c'est là que je me suis nourri des différents outils pédagogiques que d'autres enseignants ont eu à développer dans leurs écoles, dans leurs classes. C'est de ça que je me suis nourri.
Restez en ligne avec nous, hein, Elias Givi. Laure Pilot, Elias Givi nous disait en fait les enfants finalement mémorisent, comprennent, acquièrent les connaissances plus vite quand ils sont à l'extérieur. Est-ce qu'on peut expliquer comment, pourquoi?
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Elias Givi, donc qui fait partie des enseignants qui sont inscrits à cette fameuse semaine francophone. Donc c'est vraiment un plaisir de l'écouter témoigner. Et de voir qu'il se passe des choses très similaires un peu partout dans le monde. Donc à propos de la mémorisation, on peut dire que le circuit de mémorisation s'appuie sur différentes choses et qui peut notamment s'appuyer sur la position du corps dans l'espace. Et donc à ce titre, on va avoir tout intérêt à mettre les élèves dans des lieux d'apprentissage différents, à les mettre en mouvement au moment des apprentissages, pour que leur corps ciblé mémorise différemment. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup de gens, quand on leur demande des souvenirs d'école, vont avoir tout de suite les souvenirs de sortie scolaire ou de moments un peu exceptionnels. Si on a comme ça un changement d'espace, ça peut vraiment favoriser les processus de mémorisation.
Une rupture dans la monotonie aussi de l'école, parfois. Hein. Sarah Vauquier, quand on mesure la circonférence d'un arbre avec ses mains, avec le mètre, si c'est un arbre qui est très important, il faut être à deux ou trois pour faire le tour avec une ficelle. Ensuite, comparer la ficelle à un mètre.
Par exemple.
Ça va prendre du temps en même temps.
Ça, c'est juste. Moi, je dirais pas, d'après mes observations ou les recherches que j'ai pu accompagner, qu'on apprend plus vite, mais que ça reste ancré plus profondément et qu'on a vraiment compris à la fin, qu'on a manipulé cette ficelle, qu'on a réfléchi. Mais en fait, voilà, comment on mesure cette circonférence? Moi, j'arrive pas à faire tout le tour de l'arbre avec mes bras. Et il faut trouver une solution à une problématique donnée. Ouais. Et puis on devient créatif, ouais. On coopère avec les autres. Et finalement, on a une solution qui risque de nous rester plus que si on a travaillé ça juste sur une fiche et déconnecté en fait, du sujet d'apprentissage qui est la circonférence de l'arbre.
Elias Givi, comment ça se passe pour vos élèves qui sont en difficulté?
Les élèves qui sont en difficulté, en fait, nous avions instauré un système de suivi par les pairs. Donc, pendant que l'activité se déroule, l'enseignant observe les plus habiles, ceux qui comprennent vite. Et dès lors qu'il y a un autre qui a la traîne, on associe ces deux-là immédiatement. Et celui qui a bien compris, l'autre part la main, bon, c'est une façon de parler pour l'amener aussi à accomplir la tâche et à comprendre ce qu'il faut faire.
Ça s'appelle la solidarité, hein, finalement.
On pourrait dire.
Voilà, ouais,
mais finalement, l'Orpilo, c'est vrai que dans les classes, on va dire les classes que l'on connaît, les bons élèves ne sont pas vraiment sollicités pour aider les autres, normalement.
Non, effectivement. Et là, la classe d'Orp, ça présente une situation vraiment intéressante que j'ai pu observer à diverses reprises. C'est que finalement, parfois, ce sont les élèves qui sont en difficulté à l'intérieur qui vont montrer de nouvelles aptitudes à l'extérieur. Par exemple, organiser le groupe de leurs camarades pour effectuer une tâche, alors que certains bons élèves qui sont très habitués à l'intérieur vont, eux, être un petit peu en difficulté au début. Ils ont du mal à être performants parce qu'ils ne vont pas tout de suite saisir les attentes de l'adulte. Mmh. Donc, ça challenge les bons élèves.
Il faut sortir
et ça
du cahier.
Propose... Mmh. Exactement. Mmh. Et ça leur permet comme ça de développer un peu aussi un recul critique par rapport aux enseignements et qui est vraiment très intéressant et très bénéfique pour l'ensemble de la classe. Ça permet aussi beaucoup de travailler sur la différenciation entre les élèves, c'est-à-dire de proposer des activités différentes en fonction du niveau, de l'appétence pour un sujet, et de vraiment les aider à développer leurs points forts et à se soutenir collectivement.
Vous aussi, vous observez des choses surprenantes chez des élèves qui sont en difficulté, Sarah Vauquier, dès lors qu'ils ont la possibilité d'apprendre à l'extérieur?
Voilà, c'est toujours la question, c'est quoi, quelle difficulté? Je dirais, il y a des élèves
pour
qui
vous,
sont
y a pas de mauvais élèves,
plus
c'est ça.
Créatifs, qui sont plus à l'aise dans leur corps et que savent le gérer, le connaissent bien, et ben, qui sont inventifs quand il s'agit de construire, etc. Et c'est peut-être pas ceux qui sont à l'aise sur une fiche de mathématiques dans une salle de classe, mais ce sont ceux qui sont à l'aise à l'extérieur ou dans la nature, et évidemment qui peuvent aider les autres. Donc, je trouve que c'est très intéressant pour l'enseignante ou l'enseignant qui, ça lui permet d'observer les élèves dans leur globalité. Alors, justement, pas que leurs compétences sur fiche, mais aussi leurs compétences en vie réelle ou dans des situations où il n'y a pas juste une seule réponse qui est attendue par le prof, mais qu'il faut trouver différentes solutions. Mmh. Et on arrive mieux à comprendre et à saisir l'individualité de chacune et chacun.
C'est ce qui vous arrive, Elias Givi, vous découvrez parfois vos élèves quand vous êtes à l'extérieur avec eux, ils apparaissent différents?
En effet, pour revenir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, là, des fois vous trouvez en face d'enfants qui vous cassent pratiquement les pieds en classe, mais une fois que vous mettez le pied dehors, c'est eux qui sont les meilleurs organisateurs de la troupe,
oui.
Ils coordonnent les activités. Et à la limite, il vous informe de tel autre qui se comporte mal et immédiatement, vous le remettez sur les pas. Donc ça, c'est une réalité. On ne peut pas continuer pas enseigner seulement et tout le temps dans nos quatre murs. Mm-hmm. Donc c'est dépassé. Il faut trouver de nouvelles méthodes. Mm-hmm. Et la classe dehors en est une pour rompre avec les anciennes méthodes traditionnelles. Mm-hmm.
La classe dehors bouscule les rôles, finalement, les rôles assignés, où le mauvais élève, l'élève perturbateur, on lui a collé l'étiquette depuis le début de l'année, et puis du coup, lui-même, il n'a plus envie d'en sortir. Hein. Le bon élève ultra timide, c'est la même chose. Là, ça bouscule tous les rôles, hein, le fait d'être à l'extérieur, où tout le monde est en position de découverte. Comment les élèves vivent ça par rapport à vous, Elias Givi? Parce qu'ils savent que tous les enseignants ne font pas la même chose avec leurs élèves. Que vous disent-ils?
Déjà, il faut dire que au sein de l'école, on m'a déjà collé une étiquette du maître, le maître paysan, le maître qui va au champ.
Le maître paysan, oui.
Ouais, vous. Donc, c'est une nouvelle vision, une nouvelle perception que les enfants hors de nous. Et ça les marque beaucoup plus. Même au niveau des autres collègues, c'est une nouvelle façon de faire que d'autres cherchent à découvrir. Cette ou l'année scolaire passée, par exemple, nous avons une catégorie d'enseignants, bon, enfin, bien que je ne voudrais pas être péjoratif, les aspirants au métier d'enseignant. Mm. Il y a un nouveau recrue qui est venu dans mon école et qui s'est approché de moi quand il m'a vu faire. Voyez-vous. Et on en a parlé. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour mettre en œuvre également, faire sortir ses enfants? Mm.
Ouais, alors, vous posez une vraie question là-dessus, Elias Givi, parce qu'on est dans un contexte de crise profonde du métier d'enseignant partout dans le monde, parce que le métier n'est pas assez valorisé par la société, parce que les enseignants ne sont pas assez payés, parce qu'ils ont tous, partout dans le monde maintenant, des difficultés pour gérer leurs élèves, des enfants qui ne sont plus vraiment adaptés à l'école, parce que sur les écrans, ça va tellement plus vite. Laure Pilot, est-ce que vous pensez que l'école dehors aujourd'hui, malgré les freins pour sortir la classe à l'extérieur, ça peut aussi apparaître comme une solution aux difficultés aujourd'hui de l'enseignement?
À vrai dire, j'en suis profondément convaincue, puisqu'en tant que formatrice de futurs enseignants, j'ai pu noter que donc déjà c'est une pratique qu'ils apprécient et qu'en plus on peut vraiment jouer avec eux sur le levier du fait que en faisant classe dehors, on devient un maillon de la chaîne de la transition écologique. On ne peut pas faire d'éducation au développement durable sans sortir, au moins à certains moments. Il faut reconnecter les jeunes avec l'environnement et l'enseignant, en faisant cela, devient acteur. Et on sait que pour lutter contre les émotions type éco-anxiété ou peur de l'avenir, la mise en action est indispensable. Faire classe dehors, ça permet d'agir avec ses élèves, pour ses élèves et pour la société en général, pour cette éducation au développement durable.
Et vous, Sarah Wauquiez, qui êtes suisse, quand vous passez la frontière, que vous arrivez en France, qui est un pays peut-être plus rigide, à cheval sur les disciplines scolaires...
Je suis d'accord.
Oui, je vois à votre visage que vous êtes d'accord. Comment vous ressentez les choses et surtout, quels sont les principaux freins?
Les freins pour sortir, oui. Vous voulez dire.
Sortir les élèves et les enseignants.
Je dirais les freins, ils sont un peu pareils dans tous les pays, hein, déjà pour répondre à cette question. Mais comment moi, en fait, je suis à l'aise en tant qu'enseignante dans un milieu qui ne m'est pas connu, je peux moins contrôler. Il y a beaucoup d'imprévus qui peuvent se passer. Il y a l'intérêt des enfants qui est attiré par d'autres choses. Comment moi, j'arrive à gérer cette classe? Donc ça, c'est un des freins qu'on a ici. Et puis après, deuxième chose, qu'est-ce qu'on apprend dehors, comment je peux faire le lien
avec on apprend quelque chose,
le programme scolaire et puis voilà, les situations d'apprentissage qui se montrent à l'extérieur. Et puis je dirais le troisième, c'est comment me regardent les parents, mes collègues, ma direction, mon inspecteur quand je fais ça, est-ce que j'ai du soutien ou bien non? Est-ce qu'ils me mettent des obstacles entre les jambes? Juste pour résumer ça, les freins. Mais après, les enseignants que j'ai pu contacter ou interviewer en France, mais comme en Suisse, ils disent la même chose sur les bienfaits pour eux, en fait. Et ça, je dirais, ça m'intéresse de Elias. Si, est-ce que je peux vous demander une question?
Allez-y, Sarah. Allez-y.
Alors, ça m'intéresse, Elias, de savoir cet enseignement à l'extérieur par la vie, qu'est-ce que ça vous a changé pour vous, en fait, pour vous en tant qu'enseignant, mais aussi pour vous en tant qu'humain?
Pour moi, en tant qu'enseignant, cette forme d'enseignement me permet de me surpasser. C'est vrai que le programme est très chargé, on n'a pas souvent le temps, mais quand je m'organise, ça me permet de m'organiser et d'utiliser efficacement mon temps. Maintenant, en tant qu'être humain, cette façon de faire me connecte avec la nature. Et vous, on ne s'en rend toujours pas compte. Quand nous sommes dans les quatre murs, on a l'électricité. Des fois, c'est vrai que je n'ai pas la climatisation, mais dans d'autres écoles, des gens ont la climatisation dans leur classe. Si bien qu'on ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'extérieur. Mais une fois à l'intérieur, on voit. Il m'est déjà arrivé de voir un arbre être coupé. Et la raison, c'était quoi? C'était parce que les oiseaux ont érigé leur domicile là, les oiseaux gendarmes ont érigé leur domicile et faisaient beaucoup de nuisances là. Donc, pour se débarrasser d'eux, les gens coupaient l'arbre. Mais quelques jours après, ils se sont retrouvés à se plaindre de la chaleur.
C'est clair que effectivement, vous décrivez très très bien tout ce que ça change, mais surtout à quel point c'est aussi une exigence pour vous hein, en tant qu'enseignant, Elias Givi. J'aimerais qu'on dise un tout petit mot parce qu'on arrive bientôt au terme de cette séquence. Mais Laure Pilot, là, on a surtout parlé de l'école élémentaire, hein, puisque Elias Givi nous disait qu'on l'appelait le maître au chant. Mais est-ce que ça peut fonctionner ? Dites-nous vraiment en quelques mots si ça peut fonctionner pour le secondaire, quand on voit le poids des disciplines scolaires qui sont de véritables forteresses en France.
Oui, complètement. C'est pour ça que dans le cadre de la semaine francophone, les enseignants de la maternelle au supérieur sont invités, puisque ça, enfin, à nous rejoindre, puisque ça concerne même les enseignants du supérieur. Dans le secondaire, où l'emploi du temps est très contraint, on a quand même des leviers. On peut travailler en co-animation avec des collègues, mutualiser des heures, essayer d'avoir cours avant un autre collègue qui est aussi motivé pour avoir deux heures plutôt qu'une. Et puis aussi ne pas se limiter. Faire cours dehors, c'est pas forcément passer une journée en forêt. Ça peut être passer une heure ou juste une partie du cours dans la cour de l'établissement, ça peut être sortir aux abords immédiats de l'établissement en ville. Bref, les modalités sont extrêmement souples. On peut vraiment faire beaucoup de choses à ce niveau-là, également dans le secondaire.
Ouais, du réparateur de téléphone à la forêt, il n'y a qu'un pas. Et en tout cas, on peut apprendre absolument partout. Elias Givi nous a donné un exemple incroyable. Merci à vous, Elias Givi, d'avoir été en ligne avec nous d'Avrancou, hein, une commune rurale dans le département de Ouémé, dans le sud-est du Bénin. Merci à vous. Et merci, Laure Pilot. Hein. Vous avez créé notamment la formation en ligne Enseigner dehors dans le secondaire pour le réseau Canopée. Et merci à vous, Sarah Vauquier, d'avoir fait le voyage de Suisse. Votre livre s'appelle Future Skills, cultiver en plein air les compétences d'avenir. Et bien sûr, il est à commander sur Internet. Merci beaucoup, Sarah. C'était un plaisir de vous retrouver, de vous voir en chair et en os depuis l'école à la radio sur RFI.
Merci à vous.
Dans quelques instants, nous donnons la parole à une voisine, Laurence Théo, pour son reportage Un fauteuil roulant à Sciences Po. Mais tout de suite, écoutez celle qui chante aussi bien en français, en anglais, en arabe, Dendana, chez 8 milliards de voisins.
صعب عليا زمان كان يا ما كان وين كنت صغير ونأمن بالماريكان ونشوف بويا بين الدار والدكان ما عندي صور دي نمشي غير بلسان حتى سمعوني أنا يا الفنان يا قالوا راح طاح في القدرة ما بان ما عندي عرف ما عندي كتاف ما نعرف حد من غير شيخ انا محتاج ما نعرف التاج اللي يستعرف ما بقالي والو في تلمسان شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شافور في بلاد النور عديان ولا وصحابي حبوا قاع يخطبوا لي كي شافوني جبت الديبرو لو كان جيت في بلاصتي اش تختار يا المختار بين العار والاسبوار ارمي اللي ما يفيدك الصاحب غير من جيبك قبل ما يدربك الكار هادي حكايتي الشبيبة حرة وجزائرية لي ما نساواش اللي صار شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي شادي مادي قال لي راسي نروح
Il n'est jamais trop tard. C'est Dendana chez 8 milliards de voisins et nous sommes en direct sur RFI. Laurence Théo, une voisine, vient de nous rejoindre. Bonjour Laurence.
Bonjour Emmanuel, ça fait plaisir d'être là avec
vous. On est
ravis
de vous recevoir parce que votre grand reportage qui est diffusé sur RFI aujourd'hui, ce soir, 21h40, heure de Paris, 19h40, temps universel, s'intitule « Un fauteuil roulant à Sciences Po ». C'est Sciences Po Lille, ça parle du handicap, mais c'est aussi, et ça j'aimerais bien que vous le racontiez, une très belle histoire de rencontre qui a été possible grâce à RFI.
Tout à fait, et puis le mot rencontre est le mot juste, hein. On n'en fait pas tant que ça dans une vie des rencontres. Et avec Aymeric, ça a été une vraie rencontre. Donc il a fait son stage de troisième à RFI, il s'agissait d'accompagner donc un élève en situation de handicap. Alors je me souviens de ce beau garçon avec une coupe de cheveux très étudiée, très élégant, sa petite chemise blanche. Il venait comme ça avec
hyper
son
motivé.
Hyper motivé.
En fauteuil roulant. 15 ans à l'époque. Hein.
15 ans à l'époque. Il avait envie de tout faire, du reportage, et toujours le sourire. J'ai pris des photos, je les ai regardées. Il a le sourire tout le temps. Il faut quand même savoir, Emmanuel, que Aymeric, par exemple, il fallait l'aider à couper sa viande à la cantine. Aymeric, il faut l'aider à déboutonner le pantalon quand il doit aller aux toilettes. Et une volonté, une énergie qui ne l'a jamais quitté. Donc j'ai eu cette idée de faire ce reportage. Alors bien sûr, pour sensibiliser les auditeurs à la question du handicap, d'ailleurs dans le reportage, on voit bien que ses camarades ont appris de lui. Ils disent, voilà, bah, maintenant qu'on connaît Aymeric, on ose lui poser des questions, etc. Mais surtout, je savais que cette amitié, parce qu'on a continué de se voir, de se téléphoner, on a dîné ensemble, j'ai fait un reportage sur le foot-fauteuil, car c'est un athlète de foot-fauteuil, et bien cette confiance, cette amitié, je savais qu'on allait aller plus loin, c'est-à-dire qu'on n'allait pas simplement dire « Ah là là, c'est embêtant quand un fauteuil roulant, quand il n'y a pas d'ascenseur, c'est compliqué ». Je savais qu'il y aurait quelque chose de plus au nom de cette confiance, de cette amitié. Et d'ailleurs, on a parlé de choses très intimes, comme la vie amoureuse.
Et Aymeric a 20 ans aujourd'hui, donc il a intégré Sciences Po Lille. Et il faut quand même rappeler aux auditeurs que quand on est jeune, on cherche d'abord à s'émanciper. Mais qu'avec le handicap, on se heurte vraiment au mur de la dépendance. Parce que Aymeric a par exemple besoin d'une auxiliaire de vie.
Tout à fait. Aymeric, d'ailleurs, dans le reportage, il rend hommage à toutes ces personnes. Vraiment, son auxiliaire de vie, Clarine, d'ailleurs, c'est un moment qui m'a énormément touchée dans ces deux jours passés avec lui, parce que, en fait, donc, Clarine, donc son auxiliaire de vie ivoirienne, l'attendait. Un moment, elle doit l'aider, par exemple, à passer ce qu'on appelle le transfert, hein, passer du fauteuil au fauteuil de douche. C'est quand même un gaillard, quoi. Et la façon dont elle a soulevé Aymeric, il y avait quelque chose de très émouvant. C'était comme un câlin.
Et puis, il y a aussi son chauffeur de taxi qui l'emmène en cours tous les jours.
Tout à fait. André, qui est plus qu'un chauffeur, parce que c'est l'homme qui est toujours là. Alors donc, bien sûr que Aymeric doit... on doit arrimer le fauteuil dans le véhicule. On va entendre André qui présente Aymeric.
Oh, c'est un bon petit mec. Hein, il ira loin. S'il continue sur sa lancée, il ira loin. Hein, là, bon, Aymeric est très bien. Il y a certaines personnes... sans les parents, ils sont un peu démunis.
L'impact du handicap se fait à la fois lorsque on est à la maison, mais aussi lorsqu'on est hors de la maison, puisque il y a eu tellement de fatigue, de stress, d'inquiétude pour l'enfant que ça a des répercussions parfois irréparables sur la santé, avec des maladies. C'est le ressenti que j'ai vis-à-vis de ma famille, et notamment de ma mère et de mon père, qui se sont énormément sacrifiés pour moi et qui aujourd'hui paye une certaine fatigue chronique, un certain stress chronique, des maladies qui en découlent peut-être, des moments où ils ont dû se battre pour que je sois où je suis aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le rendre et que cette niaque, certes, elle vient du handicap, mais elle vient aussi du devoir de rendre les choses aux gens qui ont toujours été là pour moi.
Nous sommes au pied de la résidence étudiante où Aymeric loue un petit appartement loin de la région où habitent ses parents. Menue et souriante, Clarine, auxiliaire de vie, est là pour accueillir l'étudiant.
S'il fait froid, on met un pyjama, le temps de prendre la douche après.
Allez.
Ça fait du bien, Aymeric.
Ah ouais, ouais. C'est vrai que quand on passe toute la journée à courir, entre guillemets, à droite, à gauche, enfin à rouler à droite, à gauche en l'occurrence, avec un timing très serré, d'avoir quelqu'un qui vous demande comment votre journée se passe, qui a le sourire, qui est contente de vous retrouver, c'est vrai que ça fait du bien et ça fait plaisir. La manière avec laquelle l'auxiliaire de vie va venir vous aider peut influer aussi sur la manière dont votre journée va se passer, dont vous allez vous sentir, votre humeur, etc. Donc c'est important d'avoir autour de soi des gens qui vont vous permettre d'être bien dans votre peau aussi.
Là, je suis en train de lui enlever son pull du jour, comme ça, là, parce qu'il n'aime pas trop qu'on s'attrape sa tête. Mais attends, qu'est-ce que tu fais?
Quand Clarine, elle arrive et qu'elle voit que je vais pas bien, elle va me dire, ah, vas-y, confie-toi à moi, dis-moi ce qu'il y a. C'est la seule personne qui, le jour de mon anniversaire, m'a emmené un petit gâteau en me disant, joyeux anniversaire. On peut avoir des projets, on peut étudier, on peut travailler, mais sans ces personnes-là, je ne suis personne.
C'est bon?
Ouais, là, c'est bon.
C'est bon?
Tu peux mouiller les cheveux comme ça.
Je te mouille les cheveux aussi? On va faire son point quand même. Ouais. Allez. Il aime bien les jeux d'aussi la tête.
Ah oui. Sinon, ça a été ta journée?
Ouais, ça a été.
Aymeric, sans Clarine, là, tu ne pourrais pas te laver tout seul?
Je pourrais laver le haut du corps, mais je resterais bloqué sur la chaise.
Et l'intime aussi, il le lave tout seul.
C'est ça. Donc là, les habits, c'est ça?
Oui. Qu'est-ce que tu veux mettre?
Un truc assez simple, un petit jean, mais sans forcer. Quoi.
Ben on remet celui de tout à l'heure. Alors.
Ouais, au pire, ça ira très bien. Ça ira très bien de toute façon.
Et le haut, qu'est-ce que tu veux mettre?
Le petit pull bleu clair, il était beau, hein?
Ouais. La difficulté, c'est d'arriver à lui faire porter le pantalon, mettre les pieds. Il faut faire attention parce que ça lui fait mal quand tu t'appuies trop.
Il faut faire attention.
Qu'est-ce qui fait mal, par exemple?
La raideur. Tout bêtement, les muscles raides en permanence, tout le temps tendus. On le cache, mais c'est une réalité. En fait, ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que lorsqu'on a un handicap, moi, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être coquet et de prendre soin de moi. Et il n'y a pas de distinction entre handicap ou pas handicap là-dessus.
Aymeric, 20 ans, étudiant à Sciences Po Lille. Il a choisi cette école d'ailleurs parce qu'il a réussi le concours. Mais il faut savoir, Laurence Théo, que 2% des étudiants en France sont en situation de handicap. Le pays progresse, mais finalement trop lentement encore.
Tout à fait. Et ce que pointait Aymeric, c'est que souvent, on décourage les étudiants. Les élèves sont motivés, mais on les décourage. On va leur dire, les études sont ardues. Tu vas être fatigable. Donc, Aymeric dit qu'il faut vraiment essayer de changer ses mentalités.
Merci Laurence Théo. On retrouve votre reportage à 21h40, heure de Paris, 19h40, temps universel, et puis bien sûr aussi sur le site rfi.fr et sur l'appli Pure Radio. Merci beaucoup d'être passé chez
Merci.
Milliards de voisins.
Merci à vous.
Et merci à l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine Cachin, Tom Malky, Romain Dubrac, Didier Cherouse. Toutes nos émissions sont à réécouter d'ailleurs en podcast, surtout si vous les avez prises en cours de route sur l'appli RFI Pure Radio et puis sur toutes les plateformes de téléchargement. Et on se retrouve demain pour 8 milliards de voisins. Le sujet, être militante et féministe sur le continent africain. Je reçois trois femmes puissantes chez 8 milliards, venues de RDC, du Bénin et du Burkina Faso. Dans quelques instants, ce sera RFI Midi, parce que l'info continue bien sûr sur Radio France Internationale. À demain les voisins et les voisines.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.
8 milliards de voisins, c'est fini.